Bonjour chers auditeurs, voici l'émission Visage de la Bible. Catherine Mann au micro pour vous proposer de feuilleter la Bible comme un album de famille, celui d'une grande famille spirituelle, où nous allons nous attarder sur quelques visages d'hommes et de femmes, en choisissant plutôt de mettre en lumière ceux qui ne sont pas très connus, mais qui méritent pourtant de l'être, ou en tout cas qui méritent que l'on s'y intéresse, car dans la Bible, tout a son importance. Je vous propose de commencer notre parcours avec les premiers ancêtres de notre belle famille humaine, en remontant à Adam et Ève, dont l'histoire est bien connue. Rappelons-nous que très vite, ils nous léguèrent un héritage compliqué. Leur premier fils, Caïn, avait très mauvais caractère, et quand il vit que Dieu avait une petite préférence pour son frère cadet Abel, Caïn se vexa et tout simplement trucida Abel. Bien sûr, Dieu en fut mécontent. Lisons donc Genèse, verset 11 dans le chapitre 4. « Le Seigneur dit à Caïn, tu es maintenant maudit du sol qui a ouvert la bouche pour recueillir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Voilà, Caïn a donc été condamné à une vie difficile, mais qui ne l'a pas empêché de se marier et de faire beaucoup d'enfants, ce qui a fait dire à certains commentateurs pessimistes que l'humanité, étant donc faite de la descendance de Caïn, nous avons tous dans nos gènes quelque chose hérité de cet homme jaloux, violent et meurtrier. Ce qui est dans les choses possibles, évidemment. Mais comme je veux être plus optimiste, je préfère que nous regardions un peu plus loin un nouveau visage, celui de Seth. Je vous lis le texte qui nous le présente, donc Genèse chapitre 4, verset 25. « Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et le nomma Seth, disant, « Car Dieu m'a suscité une autre descendance à la place d'Abel, puisque Caïn l'a tué. » À Seth aussi, il lui naquit un fils qu'il appela du nom d'Enoch. Voilà, nous avons le fils et le petit-fils. Or, Enoch est un nom hébreu qui veut dire l'homme, l'homme au sens général d'être humain. Donc, il me semble plus judicieux de penser que l'humanité doit beaucoup à son ancêtre Seth, qui remplace Abel, plutôt qu'à Caïn. Malheureusement, la Bible ne dit rien du caractère de Seth dont nous aurions pu hériter. Tout ce que je peux dire, c'est que ses ancêtres eurent tous une très longue vie, bien remplie, puisqu'ils ont continué, nous dit le texte, d'engendrer quantité de fils et de filles. Adam vécut 930 ans. Ensuite, Seth vécut 912 ans et Enoch 905, etc. Toute cette première généalogie se trouve au chapitre 5 de la Genèse. Et on peut y constater une chose, c'est qu'on vit vraiment longtemps à cette époque. Mathusalem, par exemple, a vécu 969 ans, ce qui semble être un record qui lui valut une belle réputation jusqu'à nos jours. Par contre, son fils, Lamech, mourut à seulement 770 ans. Par contre, le fils de Lamech, Noé, arriva quand même jusqu'à l'âge de 950 ans, bien qu'il connût une vie mouvementée, bouleversée par le déluge, comme chacun sait. Les humains ont donc été programmés pour du long terme. Mais il faut remarquer quand même que dans toute cette histoire des ancêtres, rien n'est dit de la longévité des femmes. Et comme par contre on nous explique que l'activité principale de ces vénérables patriarches fut d'engendrer quantité de fils et de filles, on doit bien se dire qu'ils ne devaient pas vraiment respecter la monogamie selon l'exemple du couple fondateur Adam et Ève. car il semble difficile d'imaginer une seule épouse peuplant le monde avec autant d'efficacité tout au long d'une vie aussi longue. Mais voilà, on ne sait pas, tout ça reste une zone d'ombre. En tout cas, pour en revenir à Caïn, on ne lui connut qu'une seule épouse. Par contre, son arrière-petit-fils, donc celui qui s'appelait aussi Lamech, lui eut très clairement deux épouses. Le texte de Genèse chapitre 4 verset 19 nous le dit clairement. L'une s'appelait Ada et l'autre Tsilla. La lignée de Caïn fut donc aussi très prolifique. Du fils aîné d'Ada, on dit toujours au verset 19, ce fut lui le père de ceux qui habitent des tentes avec des troupeaux. Donc le père des tribus nomades comme les Bédouins, qui subsistent encore aujourd'hui, bien qu'ils soient moins nombreux, mais ils ont un respect des traditions incroyablement tenace. Le fils cadet d'Ada, par contre, est devenu musicien, et on dit qu'il fut le père de tous ceux qui jouent de la sitar et du chalumeau. Du côté de Tsilla, ce fut différent, le fils aîné devint un forgeron qui aiguisait, dit le texte, tout soc de bronze et de fer. Bref, voilà la famille humaine qui continue de s'agrandir. Mais leur histoire ne commence vraiment à se préciser qu'au temps de Noé, donc à partir du chapitre 6 de la Genèse. Et l'atmosphère, là, n'est pas vraiment joyeuse. Je vous lis le verset 5 du chapitre 6. « Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre. À longueur de journée, son cœur n'était porté qu'à concevoir le mal. Et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. » Voilà, le reste de l'histoire est bien connu. Hein. Dieu décide un déluge pour exterminer l'humanité devenue tellement nocive. Mais Noé, par contre, qui est sage et bon, trouve grâce aux yeux de Dieu, et à cause de ça, une partie de l'humanité et du règne animal va être sauvée. Et c'est une première alliance entre Dieu et les hommes qui va être scellée. Je vous lis chapitre 9, verset 12. Dieu dit « Voici le signe de l'alliance que je mets entre moi et vous, et tout être vivant avec vous, pour toutes les générations futures. Je mets mon arc dans la nuée, pour qu'il devienne un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand je ferai apparaître des nuages sur la terre et qu'on verra l'arc dans la nuée, je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tout être vivant, quel qu'il soit. » Voilà, nous avons donc ici, grâce à Noé, une première alliance qui s'adresse à toute l'humanité, bien avant Abraham. Et cette alliance reste valide et présente jusqu'à nos jours, puisque Dieu l'élargit à toutes les générations futures, ce qui est confirmé d'ailleurs au verset 16, qui dit « L'arc sera dans la nuée en souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tout être vivant. » Voilà, peut-être qu'il peut nous rassurer face à la montée des inquiétudes écologiques que nous connaissons aujourd'hui. Tant que l'arc-en-ciel existera, Dieu restera à l'écoute de l'humanité et de ses besoins. Si on se tourne vers lui avec confiance, il doit rester fidèle à ses promesses. reprenons le fil de notre progression dans le grand album de la famille biblique. Avant le déluge, Noé avait déjà engendré 3 fils. Et le texte biblique nous dit qu'ensuite, c'est à partir d'eux que toute la terre fut repeuplée. On pourrait donc penser qu'il y avait eu alors une sorte de remise des compteurs à zéro en ce qui concerne l'hérédité, et que le mal avait été définitivement extirpé des cœurs. Mais il semble bien qu'il n'en fût rien, car les problèmes vont continuer à perturber notre famille humaine. Et les 3 fils de Noé s'appelaient Sem, Cham et Japhet, ce qui, d'après le chapitre 10 de la Genèse, fait qu'ils se partagèrent le monde et s'établirent dans 3 régions différentes. Japhet ira vers tout l'Occident. Cham sera à l'origine de Mitzrayim, donc l'Égypte, de Kouch, l'Éthiopie, et puis la Libye, enfin toute l'Arabie du Nord jusqu'à la Mésopotamie. Et enfin, de Sem, qui est considéré comme le fils aîné, naîtront tous les fils de Héber, c'est-à-dire les Hébreux, en fait les Sémites, fils de Sem, sur lesquels va essentiellement se concentrer ensuite toute l'histoire familiale. Son statut d'aîné lui donne une place d'autorité sur ses frères. Pourtant, on voit dans le texte que Babel, donc Babylone, fait partie des territoires attribués à Cham. Il semble que c'est dans cette lignée qu'il faut chercher les responsables de la tour de Babel, quand les hommes cherchèrent, dit le texte, à bâtir une tour dont le sommet touche le ciel, c'est-à-dire chercher à devenir aussi puissant que Dieu. Là aussi, on connaît bien la réaction courroucée de Dieu qui va brouiller les langues pour que plus personne ne se comprenne et dispersa l'humanité sur toute la terre. Pendant ce temps, du côté de chez Sem, les engendrements se succèdent pour en arriver finalement à partir d'Aram, donc celui le père des Araméens, jusqu'à Théra, le nom du père d'Abraham et de ses frères, Nahor et Haran, le père de Lot. Haran, père de Lot, qui mourut jeune, c'est pourquoi Lot fut recueilli par son grand-père. Alors, lisons cette partie de la Genèse, chapitre 11, à partir du verset 31. Théra prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils de Haran, ainsi que sa belle-fille, Sarai, fait femme de son fils Abraham, et ils sortirent d'Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils gagnèrent Haran où ils habitèrent. Ainsi, la famille d'Abraham, c'est Abraham, le futur Abraham, après avoir quitté la Mésopotamie, il va s'installer à Haran, qui se trouve dans le sud de la Turquie, le sud-est de la Turquie actuelle. Nous ne nous attarderons pas sur le visage de notre père Abraham, dont l'histoire est déjà bien connue. Mais regardons un peu plus longuement le portrait de son neveu Lot. Lot, comme Abraham, était très riche en troupeaux. C'est pourquoi tous les deux vont commencer à se gêner l'un l'autre. En tout cas, les troupeaux se gênent parce qu'ils sont trop entassés les uns sur les autres. Et Lot et Abraham vont devoir décider de se séparer pour faciliter la vie des troupeaux. Ils vont donc décider d'un commun accord, et Abraham, plein de générosité, va laisser à Lot le choix du territoire qui l'intéresserait. Et celui-ci, tout simplement, choisit d'aller vers le Jourdain, qui était certainement la région la plus fertile. Il choisit, en tout cas il croit choisir, la meilleure part. Mais c'était sans compter qu'au milieu de ce territoire se trouvent les villes de Sodome et Gomorre. Il y a peut-être une petite leçon à comprendre dans cet épisode, parce qu'Abraham, qui se contente des territoires qui restent autour de Canaan et qui sont assez normales, plutôt quelconques, lui se voit bénir par Dieu. Il pourra étendre encore ses possessions et ses richesses, et sa descendance pourra se multiplier, comme dit le texte, comme la poussière de la terre, lui dit Dieu. Alors que Lot, au contraire, qui choisit le beau territoire fertile, va au-devant de gros problèmes, parce qu'à cause de son ambition, il n'a pas su voir que les territoires qu'il désirait, et je vous lis le verset 13 du chapitre 13 de la Genèse, abritaient des scélérats qui péchaient gravement contre le Seigneur. Alors, il faut sauter un peu l'histoire d'Abraham pour arriver au chapitre 18 de la Genèse, où nous lisons au verset 20 et suivant, « Le Seigneur dit, la plainte contre Sodome et Gomorre est si forte, leur péché si lourd, que je dois descendre pour voir s'ils ont agi en tout comme la plainte en est venue jusqu'à moi. » Alors, la suite des événements nous est racontée au chapitre 19. Deux anges arrivèrent le soir à Sodome, alors que Lot était assis à la porte de Sodome. Il les vit, se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Il dit, « De grâce, mes seigneurs, faites un détour par la maison de votre serviteur, passez-y la nuit, lavez-vous les pieds et de bon matin vous irez votre chemin. » Mais les anges répondirent, « Non, nous passerons la nuit sur la place. » Entre parenthèses, un tel refus était déjà à comprendre comme un signe de très mauvaise humeur à une époque où l'hospitalité était la règle fondamentale de la vie sociale. Mais Lot, qui ne doute jamais de rien, insiste. Le texte dit « Il les pressa tant qu'ils firent un détour chez lui et arrivèrent à sa maison. Il leur prépara un repas, fit cuire des pains azimes et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que la maison de Lot fut cernée par les gens de la ville, les gens de Sodome, du plus jeune au plus vieux, tout le peuple sans exception. Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » L'expression hébraïque est sans ambiguïté selon ce vocabulaire biblique bien connu, il est question ici de sexualité et même de viol homosexuel qui s'ajoute à une trahison des lois de l'hospitalité. C'est pourquoi Lot sort de sa maison effrayé et leur dit « De grâce, mes frères, ne faites pas de malheur. J'ai ici à votre disposition deux filles qui n'ont pas connu d'homme. Je peux les faire sortir vers vous et vous en ferez ce que bon vous semblera. Mais ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'abri de mon toit. » Lot se montre donc très respectueux des lois de l'hospitalité et refuse de laisser violer ses invités. Mais par contre, laisser violer ses deux filles ne lui pose aucun problème. Heureusement pour elle, les gens de Sodome ne sont pas intéressés. Ils répondent, « Tire-toi de là !» et disent, « Cet individu est venu en émigré et il se fait le redresseur de tort. Faisons-lui plus de mal encore qu'à eux. » Ils poussèrent Lot avec violence et s'approchèrent pour enfoncer la porte. Voilà une belle situation. Mais n'oublions pas que les deux hommes accueillis par Lot sont des envoyés de Dieu. Les anges, certains même disent qu'il s'agit de Dieu en personne qui est descendu. La situation va donc être retournée avec puissance par ces deux hommes, en tout cas au pouvoir miraculeux.
Thank you.
Reprenons notre contemplation du visage de Lot, le neveu d'Abraham, qui est en bien mauvaise posture dans sa maison à Sodome. Pour le moment, il est épouvanté par l'agression qu'il subit en tant qu'émigré. Il se croyait pourtant bien intégré par les gens de Sodome, qu'il appelait naïvement « mes frères ». Mais il se trompait lourdement. Heureusement, les envoyés de Dieu qui l'accueillent chez lui vont intervenir avec puissance. Lisons le verset 10 de Genèse 19. « Les deux hommes tendirent la main pour faire rentrer Lot près d'eux dans la maison, et ils fermèrent la porte. Et ils frappèrent de cécité les gens qui étaient devant l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils ne pouvaient plus retrouver l'entrée. Les deux hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Un gendre, des fils, des filles? Tout ce que tu as dans cette maison, fais-le sortir de cette ville. Nous allons en effet la détruire, car elle est grande, la plainte qui est montée devant le Seigneur à son sujet. Il nous a envoyés pour la détruire. » Alors Lot alla parler à ses gendres, ceux donc qui allaient épouser ses deux filles, et il leur dit, « Debout, sortez de cette cité, car le Seigneur va détruire la ville. » Mais les gendres ne le crurent pas, ils croyaient qu'il plaisantait. Lorsque pointa l'aurore, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Debout, prends ta femme et tes deux filles, de peur que vous ne périssiez à cause de la faute de cette ville. » Et comme ils s'attardaient, les deux hommes les tirèrent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car le Seigneur avait pitié de lui. Voilà, décidément, ce portrait de Lot nous révèle, je dirais, un homme bien peu dégourdi. Il ne prend pas vraiment les bonnes décisions. Il ne comprend pas la gravité, la réalité des situations. Il n'arrive même pas à bien expliquer le danger à ses futurs gendres. Il est lent à réagir dans l'urgence. Je dirais qu'il est un peu empoté. Et c'est sans doute un peu de tout cela qui fait que Dieu, nous dit le texte, a pitié de lui. Lisons la suite, verset 16. Toujours chapitre 19. Les deux hommes le firent sortir pour les mettre à l'abri hors de la ville. Comme ils le menaient dehors, ils dirent à Lot, « Sauve-toi, il y va de ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Ne t'arrête nulle part dans le district. Fuis vers la montagne, de peur de périr. » Mais Lot répond, « À Dieu ne plaise. Je ne pourrai pas fuir jusqu'à la montagne sans être atteint par le fléau et mourir. Vois, cette autre ville assez proche pour y fuir, elle est minuscule, je voudrais m'y réfugier. » Donc, il cherche à courir moins loin. Je trouve que Lot se montre presque agaçant de faiblesse et d'impuissance, et pourtant Dieu va continuer d'avoir pitié de lui. Là, voyons la suite. Dieu lui dit, « Vois, je te fais encore cette faveur, et je ne bouleverserai pas la petite ville dont tu me parles, donc réfugie-toi là-bas au plus vite, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » Voilà, c'est vraiment réconfortant de voir à quel point Dieu peut se montrer patient avec nos déficiences humaines. Lot est clairement là pour nous rappeler que Dieu a pitié des faibles et des inadaptés, qu'il leur propose toujours une main tendue, quel que soit leur état. Continuons quand même le chapitre 19 de la Genèse, verset 23. Le soleil se levait sur la terre quand Lot entra dans la petite ville. Alors le Seigneur fit pleuvoir sur Sodome et Gomorre du soufre et du feu. Cela venait du ciel et du Seigneur. Il ravagea ces villes, tout le district, tous les habitants des villes et la végétation du sol. Et la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une colonne de sel. Et voilà. Il n'y a donc pas que Lot qui était un peu inadapté. Sa femme aussi, visiblement, puisqu'elle n'a pas pris la mesure de l'interdit de Dieu, interdit de se retourner. Mais cette désobéissance ici va lui coûter la vie. Quant à Lot et ses deux filles, Après le cataclysme, ils se mirent en route vers les montagnes pour se mettre à l'abri des gens du pays. Ils commençaient à en avoir un peu peur. Et pourtant, là, l'histoire de Lot ne s'arrête pas du tout à ce moment-là. Il semble bien que nous arrivons maintenant à un sommet d'étrangeté dans l'histoire de cet ancêtre. Je vous lis la suite à partir du verset 31. La fille aînée dit à sa cadette, « Notre père est vieux et il n'y a pas d'homme dans le pays pour venir à nous selon la coutume. Alors, faisons boire du vin à notre père et nous coucherons avec lui pour donner vie à une descendance issue de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée des filles vint coucher avec son père, qui n'eut conscience ni de son coucher ni de son lever. Et le lendemain, l'aînée dit à la cadette, « Vois, la nuit dernière, j'ai couché avec mon père, faisons-lui boire du vin cette nuit encore, et à ton tour, tu iras coucher avec lui. » Et Lot n'eut conscience ni de son coucher ni de son lever. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée donna naissance à un fils qu'elle appela Moab, qui fut le père des Moabites d'aujourd'hui. La cadette, elle aussi, donna naissance à un fils qu'elle appela Ben-Ammi, qui est le père de tous les Ammonites. Voilà, une histoire loin, très loin de la morale, pourtant très stricte, qu'on associe généralement à la parole de la Bible. Nous devons quand même noter que les Moabites et les Ammonites qui descendent de ces liaisons incestueuses furent en général les ennemis jurés d'Israël. La cause en est peut-être justement quand même leur étonnante origine. Et pourtant, n'oublions pas quand même que bien plus tard, Ruth, la Moabite, va épouser Boaz et se trouver dans la généalogie de Jésus, car elle fut la grand-mère de Jessé, le père de David. Alors, que peut-on retirer de tout ça? Peut-être l'idée que Dieu peut toujours faire du bien avec du mal. Alors maintenant, nous laissons là Lot, dont la vie ne fut pas un exemple d'intelligence et de courage, mais que Dieu a toujours pris en pitié et protégé malgré tout. C'est rassurant pour nos propres vies, pas toujours impeccables, ce qui ne doit pas nous empêcher d'espérer le pardon et la miséricorde de Dieu. Et à présent, je vous dis au revoir, chers auditeurs, et à bientôt pour découvrir d'autres visages de la Bible.